Merci d'être avec nous à l'écoute de RFI.
Charlotte Idrac.
Et à la une de ce journal, une liste inédite, plus de 1400 noms de ressortissants africains recrutés par l'armée russe envoyés au front en Ukraine. Enquête du collectif All Eyes on Wagner, reportage au Kenya dans un petit instant. Les dirigeants des 27 en sommet informel en retraite en Belgique en ce moment pour accélérer la compétitivité européenne, notamment face à la Chine et aux États-Unis. Et on le verra sur fond de rapprochement entre les dirigeants de l'Allemagne et l'Italie. Au JO d'hiver, l'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich disqualifié pour son casque en mémoire de coéquipier tué dans la guerre face à la Russie. Le CIO lui avait interdit de le porter. Lui parle de dignité. Cela peut partir de publicités en ligne, de promesses d'emploi ou de salaires alléchants. Un business du désespoir, selon le collectif d'investigation All Eyes on Wagner, qui publie donc pour la première fois une liste de noms de ressortissants africains enrôlés par l'armée russe pour combattre en Ukraine. Au moins 1417 au total. D'après ce rapport, il s'agit bien d'une stratégie délibérée et organisée de la part de Moscou pour recruter donc notamment en Égypte, au Cameroun, au Ghana ou encore au Kenya, qui a officiellement dénoncé une pratique inacceptable et clandestine. Le ministre kényan des Affaires étrangères a annoncé une visite à Moscou le mois prochain. Nairobi estime qu'environ 200 ressortissants auraient été recrutés. Témoignage exceptionnel recueilli par notre correspondante à Nairobi, Alban Tiroir.
Dans le jardin familial, dans le centre du Kenya, la famille de Charles Wetaika a organisé des funérailles sans corps, qui n'a pas pu être rapatrié. Parti en Russie en octobre, ce Kenyan n'a plus donné signe de vie depuis Noël. Sa mère, Bibiana Wangari, a appris sa mort sur les réseaux sociaux.
J'ai appris qu'il avait marché sur une mine. Avant de partir, il m'avait appelé pour me dire qu'il avait obtenu un emploi pour travailler en tant que mécanicien pour la construction d'un camp militaire. Puis il m'a appelé pour me dire qu'il était en Russie. Et un jour, il m'a dit qu'il allait être déployé sur le front. Chaque jour, il m'appelait en pleurant. « Maman, je veux rentrer au Kenya, ce n'est pas bien ici. »
Les hommages se sont succédés. Denkan Chege, tout juste rentré du front russo-ukrainien, est venu soutenir la famille.
Je remercie Dieu de ne pas avoir grand-chose. Nous étions si nombreux. J'ai vu tant de gens mourir. J'ai moi-même été touché aux jambes par des mines. Cette situation me fait très mal, car j'ai été trompé. Je suis allé là-bas, je pensais travailler comme chauffeur. Une fois arrivé, on m'a donné une formation militaire. Et même si tu dis que tu ne veux pas faire ce travail et que tu veux rentrer chez toi, on te force à aller au front. Les Russes n'ont aucune humanité.
Denken affirme n'avoir perçu aucun salaire. Des témoignages similaires continuent d'émerger au Kenya. Nairobi dit avoir fermé 600 agences de recrutement pour endiguer le phénomène, mais l'ONG Vocal Africa affirme que les recrutements se poursuivent. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Et pour approfondir dossier à retrouver sur RFI.fr. À Madagascar, le chaos à Tamatave après le passage du cyclone Gezani. Le dernier bilan encore provisoire là est de 35 morts. Selon les autorités, près de 75% de la ville est détruite après le passage de Rafale à 250 km/h. Selon un responsable de l'ONG Action contre la faim, 90% des toits des maisons se sont envolés. Dans un communiqué, le dirigeant de Madagascar, le colonel Ranjanirin, en appelle à la solidarité internationale. Le château d'Alden en Belgique, transformé en forteresse ce jeudi pour accueillir un sommet des 27, sommet sur la compétitivité de l'économie européenne entre la concurrence chinoise, les droits de douane américains. Le constat d'urgence est partagé, il faut accélérer les réformes, mais sur les solutions, là les positions divergent, notamment au sein du traditionnel couple franco-allemand. Alors que celui entre Berlin et Rome se renforce, entre le chancelier Friedrich Merz et la présidente du conseil italien Giorgia Meloni, c'est un nouveau couple Merzoni, Pascal Thibault.
Un drame en plusieurs actes. Comment la relation entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron s'est détériorée à toute vitesse. L'article de ce matin dans le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung montre comment les divergences l'ont emporté depuis le printemps dernier entre les deux hommes, alors que après l'élection du nouveau chancelier, un nouveau départ du couple franco-allemand était attendu. Des divergences sur l'Europe avec des positions de Berlin plus libérales, en faveur du Mercosur, contre des emprunts communs ou une préférence européenne. Les bisbilles autour de l'avion du futur SCAF, la volonté d'Emmanuel Macron de dialoguer avec la Russie ou d'une ligne plus dure face à Donald Trump, tous ces sujets ont envenimé la relation franco-allemande. À cela s'ajoute le sentiment de Berlin que le président français en fin de mandat manquerait de marge de manœuvre. Sur ces différents dossiers, la proximité entre Friedrich Merz et Giorgia Meloni semble plus étroite, comme l'ont montré des propositions communes en faveur de la compétitivité européenne en amont de la rencontre des 27 d'aujourd'hui. Traditionnellement, la France et l'Allemagne auraient, avant une telle réunion, fait des propositions qui auraient servi de base de travail à leurs partenaires. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Israël va adhérer au Conseil de la paix, le Board of Peace, mis sur pied par Donald Trump, annonce du Premier ministre israélien. En déplacement aux États-Unis, Benjamin Netanyahou a rencontré hier le président américain. Pour la 7e fois depuis le retour au pouvoir du républicain, Donald Trump a insisté sur sa volonté de poursuivre les discussions avec l'Iran. De son côté, Israël insiste sur ses besoins sécuritaires face à Téhéran. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, était notre invité ce matin.
Israël souhaite trouver une solution véritable, fondamentale, aux capacités nucléaires, balistiques et de déstabilisation iraniennes.
Est-ce qu'on peut discuter avec le régime iranien?
Discuter, oui. Négocier, oui. Mais il n'y a aucune confiance. Il faut comprendre. Il n'y a aucune confiance.
Oui, mais si on négocie en se disant que les autres mentent ou qu'il y a zéro confiance,
non, mais il
y a, à quoi bon?
Il est clair qu'ils mentent. Il est clair qu'ils mentent. Si une solution sera trouvée, il faudra ensuite, après que la solution soit trouvée, mettre sur pied des mécanismes de vérification, ce qu'on appelle dans le jargon international les mécanismes de vérification, est très intrusif, qui permettront à la communauté internationale d'être sûre que ce que l'Iran a dit qu'elle ferait sera fait.
L'ambassadeur d'Israël en France au micro d'Arnaud Pontus, entretien complet sur RFI.fr. Par ailleurs, la Chine se dit aujourd'hui opposée à toute tentative d'annexion de territoire palestinien. Et cela suite aux nouvelles mesures prises dimanche par Israël pour renforcer son contrôle sur la Cisjordanie occupée. C'est la fin d'un cauchemar, dit Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix et chef du gouvernement provisoire du Bangladesh, où se tiennent aujourd'hui des élections législatives, un an et demi après le soulèvement de la jeunesse de la génération Z et la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina. Son parti a été déclaré hors la loi et donc le parti nationaliste du Bangladesh ainsi que la coalition menée par les islamistes du Jamaat el-Islami partent favoris. En Ukraine, c'était l'une des nuits les plus terrifiantes depuis le début de l'invasion russe il y a 4 ans à Lozova dans l'est du pays. C'est ce que dit ce matin un responsable local, la ville frappée par des attaques de missiles et drones russes qui ont fait au moins 2 morts, 2 civils. Par ailleurs, à Kiev, des milliers d'immeubles supplémentaires sont privés de chauffage après, il y a encore de nouvelles frappes russes sur les installations énergétiques. La guerre en Ukraine qui fait tache d'huile aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, l'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich a été disqualifié des épreuves de skeleton pour son casque, avec des photos en mémoire de sportif ukrainien tué pendant le conflit, un casque contraire au règlement selon le CIO qui lui avait proposé de porter un brassard noir. L'athlète a refusé le prix de la dignité selon lui. Les JO d'hiver et les hockeyeurs sur glace français qui entrent en piste tout à l'heure face à la Suisse dans le tour préliminaire, un petit événement en soi pour les tricolores qualifiés par repêchage et ce sera même une grande première à 40 ans pour le capitaine des Bleus, Pierre-Édouard Belmar. Participation tardive mais symptomatique de son parcours.
Ça va être un peu le thème de ma carrière dans un sens où je suis arrivé en NHL à 29 ans, ce qui est équipement déjà bien trop tard. Là, je me retrouve à 40 ans ici pour premier jeu. Je crois que j'ai fait 6 qualifs, ça veut dire 6 jeux, j'aurais pu faire. Mais je suis fier d'être là devant vous aujourd'hui. Et le message de cet accomplissement, c'est vraiment ça, de dire à mon fils, écoute, tu vois, travaille et le travail va payer. Je suis encore là, c'est pas parce que je joue, tout ça, c'est parce que j'ai fait certains sacrifices au niveau de mon alimentation et de ma façon de gérer mon corps qui font que je suis encore là aujourd'hui. Quand on va arriver au match, je sais que j'aurai fait tout ce que j'ai à faire pour être le plus performant possible. Et après, en tant que capitaine, il faut juste que je sois un leader dans tout ce que les valeurs françaises représentent.
Bon, merci Charlotte Hydrac.